Du coup, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce petit webinaire sur les mutuelles de matériel. Simplement pour vous dire que du coup, on a commencé un cycle et ce webinaire s'inscrit dans ce cycle-là autour de tous les réseaux qui entourent nos luttes locales au quotidien et nos luttes de manière plus générale et qui viennent les soutenir et qu'on a pu nous qualifier de réseau-outils. Mais bon, c'est aussi faute d'un meilleur. qualificatif, n'hésitez pas si vous avez des idées d'ailleurs. Et ça concerne à la fois bah, évidemment les cantines, mais aussi les réseaux de soins, les greniers, les réseaux de ravitaillement, etc. Et donc, après un webinaire introductif, on a d'ores et déjà fait celui concernant les cantines. Et là, aujourd'hui, on est dans celui qui concerne les mutuelles de matériel. Et à venir, du coup, en janvier, on fera sûrement tout pareil sur les greniers. Et les réseaux de ravitaillement, et en février sur les réseaux de soins, et ainsi de suite, un par mois. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de Terre de Lutte, ainsi que bah, les webinaires qui sont déjà passés. Et ce qu'on a trouvé important aussi, et peut-être vous le verrez si vous regardez notamment le webinaire introductif, ou que peut-être vous y étiez vous-même, c'est à quel point à la fois ces réseaux de soutien, ils sont en effet une force très matérielle, très concrète pour nos luttes. Donc quelque chose de vraiment quotidien, de type bah voilà, avoir une cantine autour de chez soi, c'est quand même super pratique dès qu'on balance une manif, dès qu'on fait un piquet de grève, etc. Mais il y a aussi autre chose qui se crée autour de ces réseaux-là. Et ça va être hyper intéressant là de le voir aussi autour des mutuelles de matériel, parce que ces réseaux, ils font aussi du lien différemment sur nos territoires en apportant quelque chose de très concret. Par exemple, une cantine, on va pouvoir aller typiquement potentiellement ravitailler et faire cantine sur des luttes qu'on n'aurait pas rencontrées si on n'avait pas apporté quelque chose de très matériel comme un repas. Et c'est quelque chose qui est très propre à ces réseaux-là, et on va pouvoir un peu l'explorer. Et le fait est que nous, on trouve que ça a du coup une double importance, dans le sens où, en effet, ça apporte cette aide très concrète, mais à côté de ça, il y a aussi tout l'aspect politique qui fait que ça permet d'avoir une approche politique différente et de faire naître des choses différentes en allant chercher un public parfois beaucoup plus large, voire des luttes avec lesquelles on n'aurait pas forcément lutter sinon. Et donc ça crée aussi des rencontres et un renforcement politique directement sur le territoire. Et peut-être pour commencer, je vais laisser les différents camarades qui sont là avec nous aujourd'hui se présenter. Et je ne sais pas si côté mutuel de l'Orne, vous voulez commencer. Peut-être simplement nous dire qui vous êtes et depuis quand vous existez et un petit peu ce que vous faites.
Ouais, tout à fait. Et bah, du coup, nous, on est la toute nouvelle mutuelle de l'Orne. On s'est créée fin août, juste après les résistantes, justement en partant pas mal du matériel qui avait été utilisé par les résistants en 2025. Et du coup, c'est vraiment une initiative naissante où on commence tout juste à s'organiser, à concrétiser notre organisation, à s'outiller plus largement que ce qu'on avait déjà sur l'événement. Et on s'est beaucoup inspiré et pris des conseils des autres mutuelles qui existent sur le territoire pour gagner du temps.
Et ensuite, je crois qu'il y a aussi la Matmut qui est là avec nous. La Mutmat, pardon. À chaque fois,
Ah là
je
là, ça
switch.
commence mal.
Non, pardon.
La matmut. Non, Letty, on fait les deux? Ouais, je sais pas. Peut-être du coup, la Mutmat, c'est une mutuelle de matériel et on a fêté nos 10 ans là cette année, en octobre 2025. Donc on était tout contents de ça. C'est basé à Rennes et du coup, tu prêtes principalement du matériel. Dans le Grand Ouest, mais avant on envoyait du matériel à Bure, voire très au sud, et depuis qu'il y a d'autres mutuelles, moi, donc ça c'est super. Et je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Voilà, bah après on détaillera un peu plus tard. Mais...
Carrément. Et du coup, notamment la Matmut cette fois, dans l'Est, qui existe aussi.
Oui,
Et je voulais vous
bonjour. Et
faire. Ouais.
ben, ouais, je me présente. On peut se présenter un petit peu. Il y a le droit de se tromper dans les noms des mutuelles, mais c'est vrai que ça rend pas les choses plus faciles. Bref, on fera attention à ça. Et du coup, nous, la Matmout, on est basé à Bure. Au départ, on a commencé avec un camion, et puis il y a aussi quand même beaucoup d'événements chez nous, donc on a accumulé du matériel. Et on a un petit peu agrandi notre équipe au fil des années et on a fini par aller prêter du matériel ailleurs. On prête pas mal dans le Grand Est, mais on est aussi allé du coup aux Estampes dans l'ouest de la France. On est venu grignoter les sur les terres de la Micmac. Et voilà. Et on est très content de faire de ce réseau qui se lance et voilà, on pourra discuter du reste sur la suite.
Oh bien, merci. Et du coup, il y a aussi, il me semble, un camarade des soulèvements qui est là avec nous, avec une forme un peu différente, sur le partage de matériel. Je sais pas si tu veux présenter un peu, comment ça s'articule tout ça, Gwen.
Parle de position des sous-terres. Est-ce que vous entendez bien?
Alors, de mon côté, ça bug pas mal, ça lag. Ouais, ok, je suis pas la seule.
Je vais essayer de régler mon problème internet et je redirai ça tout à l'heure.
Carrément. Et bah, peut-être une des premières questions qu'on avait, et peut-être simplement pour vous dire, là, on va avoir un peu cette discussion avec les différentes mutuelles sur, bah, pourquoi elles se sont créées, qu'est-ce que ça fait d'avoir une mutuelle sur un territoire, etc. Et ensuite, on prendra une deuxième partie de notre temps là ensemble pour parler lancement de mutuelle de matériel et avoir un petit temps, un mini temps de formation sur les différents conseils que vous pourriez prendre. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à vous les noter, à même les mettre dans le chat, comme ça nous on les note au fur et à mesure et on pourra avoir ce temps de mini formation et d'échange en deuxième partie si ça vous va. Et du coup, un peu notre première question qui peut paraître un peu bateau, mais qui, à mon avis, est quand même centrale là-dedans quand on se lance, c'est en fait, enfin, de manière générale, pourquoi on crée une mutuelle de matériel et quel était votre but à la base au moment de la création? Et peut-être, je ne sais pas si Lorne voulait commencer à répondre comme vous, c'est très récent et c'est un moment peut-être dont vous vous souvenez sur vos motivations à lancer cette mutuelle-là. Peut-être c'est un peu plus ancien pour les autres.
Ouais, et ben nous on adore le matos. Et du coup, au moment du festival cet été des Résistantes, on a été entopé pas mal dans les autres mutuelles, on a été en loué et il y en a qui a été un peu acheté. Et se poser la question, il y avait un peu deux tendances dans l'équipe logistique, quoi, de se dire est-ce que on essaye de créer une mutuelle de matos parce que bah, Rennes, ils sont pas très loin, mais bon, c'est pas si proche. Et en même temps, se dire, bah, c'était un peu l'occasion, si on ne le faisait pas là, bah, voilà. Donc, on a essayé de commencer à réfléchir, sauf qu'on était dans le jus de l'orga. Et très bonne idée de Rennes, je crois, qui nous disait, bah, en fait, stocker et puis vous voyez après. Donc, c'est ce qu'on a fait, on a stocké. Là, on est en train de trier. Et du coup, on a commencé à prêter un peu à quelques événements. Bah, l'idée, oui, c'est ça, c'est de faciliter quand on voit la galère de monter un événement, de faciliter, voilà, comme il y en a qui font la bouffe, bah, nous, de filer les tubes, quoi. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter. Voilà pour nous.
N'hésitez pas à rebondir hein, surtout, mais et du coup côté Bure, par exemple, vous disiez que vous aviez commencé avec un camion, par un côté Matmut, et du coup ouais, c'était à la base, c'était pareil pour avoir un petit aider des événements et avoir un petit stock.
Alors ouais, moi j'étais pas dans le projet au tout départ.
Il reste aujourd'hui qu'une seule personne de l'équipe de base, mais effectivement, ils avaient eu un plan, un bon plan camion, ce qui est alors un bon plan camion, ça reste quand même un camion à gérer, mais voilà, on pourra en discuter plus tard. Et ensuite, en fait, on a bien retenu que qu'on avait eu besoin de matériel un petit peu en 2015 quand on a fait nos premiers camps autonomes à Bure. Et après, on a accumulé au fil des événements du matériel et on s'est dit que si on voulait pas qu'ils se retrouvent dispersés, pas gérés et tout ça, en fait, il fallait une équipe pour gérer ce matos. Et en fait, cette mutuelle, elle a surtout servi au départ à gérer le matériel qu'on utilisait pour nos propres événements, c'est-à-dire qu'on mutualisait pour nos événements et pour les événements des autres composantes de la lutte à Bure. Et voilà, comme ça s'est été dit pour l'Orne, à chaque événement, en fait, on achetait du matos, on en prêtait, on nous enfilait, on en récupérait et tout ça. Et au fur et à mesure, on a eu assez de matos pour aussi en prêter à l'extérieur. On a réussi à se structurer petit à petit. On a grandi comme ça. Et voilà, c'est un peu cette trajectoire-là. On a du matériel, il faut bien en faire quelque chose. Et c'est dommage que ça ne serve pas. Voilà, c'est un petit peu... Et après, on s'est... Aussi, il y a, je pense, quand même le désir d'apprendre à se servir de matos, à l'entretenir et tout ça. Enfin, après, on s'est pris un petit peu au jeu parmi les membres de la Matmout et c'est l'occasion de faire des choses avec des gens chouettes. Enfin voilà, il y a d'autres raisons pas autour, mais voilà, c'est ça dans les grandes lignes.
Ok, du coup, j'ai l'impression que pour l'Orne et vous, à chaque fois, il y a eu du matériel et du coup, il fallait le gérer. Donc ça répondait à cet impératif-là. Est-ce que côté Mutmat, vous, c'était pareil? C'est parti de matos et du coup, ensuite, du besoin de gestion et aussi de pérennisation, quoi. Enfin, je sais que nous... On a vécu ça aussi au Résistante 1 avec ce besoin d'avoir un endroit et une pérennisation du matériel aussi pour pas simplement qu'il s'éparpille. Ok, ça se fait traiter de jus.
Bah si, on peut répondre, ouais. Déjà, peut-être pour répondre, nous, sur le côté de la mémoire, puisque ça fait 10 ans que c'est lancé. Déjà, nous, c'est plus du tout l'équipe du début qui est là, quoi. Il y a eu un renouvellement total, du coup, on a des bribes, quoi. On a l'histoire, mais on ne l'a pas forcément vécu aux premières loges. Nous, ce n'est pas le même schéma. C'est plutôt, c'était le constat qu'il y avait chaque groupe politique, chaque collectif accumulait du matériel et que ce n'était pas forcément si facile de partir à la pêche au matos. En gros, il fallait appeler 25 personnes pour pouvoir monter un événement et tout construire. Donc ça, c'était pas évident. Et du coup, il y avait un peu un réseau de squats à l'époque qui existait et qui a commencé à mutualiser du matériel pour pouvoir ouvrir d'une maison à l'autre et de préserver le matos entre deux expulsions. Voilà. Et après, il y avait c'était un peu lié aussi à la dynamique des camps Action Climat qui était lancé un peu depuis 2009 et tout. Et où il y avait une bonne partie aussi des gens qui avaient participé à un camp. À l'orga d'un camp à Bure, là, le camp VMC, en 2015. Et du coup, qui, au lieu de laisser le matos là-bas pour qu'il y ait une mutuelle qui se crée, sont repartis avec aussi une partie du matos à Rennes, si je ne dis pas de bêtises, donc tout le monde en laissant sur place. Voilà, et du coup, c'est un peu lancé comme ça, pour monter une mutuelle, pour gérer le matériel. Et après, au début, on n'avait pas grand-chose. Nous, ça tenait, ça remplissait le tiers d'un garage de... de maison, quoi. C'était pas énormément. Et après, on a continué à accumuler à partir de là, quoi. Pour le tout début. Et avec un peu un principe de se dire, c'est pas une mutuelle qui est affiliée à un groupe politique, mais du coup, qui est une sorte de bien commun pour tout le milieu militant de gauche, on va dire, dans lequel on évoluait à Rennes. Et voilà.
Mais du coup, là-dessus, c'est assez intéressant. Est-ce que, parce que, du coup, le matos, il n'est pas affilié à un groupe ou à une lutte en particulier. Et du coup, est-ce que vous avez vu que ça a pu permettre des choses sur le territoire, sur Rennes, en tout cas des liens de collectifs qui n'étaient pas forcément avant en lien via la mutuelle? Et ouais, est-ce que vous avez vu qu'il y avait quand même enfin que ça crée autre chose quoi que simplement de prêter du mutuel du coup cette manière de faire et de dire bah en fait c'est pour tous quoi.
Ouais carrément. Bah déjà c'est un truc qui n'existait pas que au niveau du matériel à Rennes, c'était un peu une réflexion un peu plus globale on va dire tout un pan du milieu autonome rennais quoi. Une partie où, puisque comme dans plein d'endroits, on a été divisé par plein d'embrouilles internes et autres, et du coup, il y avait un peu, je pense, des volontés de dépasser ça, aussi de chercher un peu une position juste, sans se penser, enfin, de pas se penser comme une avant-garde qui fait des trucs dans son coin, et plutôt de se mettre au service des luttes. C'était un peu ça le mot d'ordre à l'époque. Et du coup, on a 5-6 collectifs qui se sont montés à peu près dans la même période. Il n'y avait pas que la MUTMAT. Il y avait. Il y a le R2R qui s'est monté quelques années après, donc le réseau de ravitaillement des luttes. Il y a la chouette cantine qui préexistait à la mutuelle de Matos, donc, qui préexistait à la Mutmat. Et peut-être ça, c'est intéressant aussi, c'est que. Enfin bon, bref, on a 5 collectifs comme ça, qui sont créés à peu près dans les mêmes années, donc la Mutmat, la chouette cantine, le réseau de ravitaillement, la pâte mobile, qui est un collectif de boulangerie mobile. Et expansif.info, qui est le site mutualiste, qui est le site Mutu. À Rennes et en plus après c'est créé la Bulle qui est le collectif de garde d'enfants et du coup ça c'est des collectifs qui étaient assez liés entre eux au départ voilà et donc comme dit Lati c'est la chouette cantine c'est la mutuelle de matos de cuisine et qui est un peu la genèse de tout ça puisque et qui prend ses origines en 2012 au moment des expulsions à la ZAD. En fait, on a à peu près 3-4 cantines actives à Rennes qui se disent « Allez, on va faire à manger pour tenir dans les expulsions à la ZAD. » Par contre, tout le monde était un peu frileux à l'idée d'aller risquer ces belles gamelles inox dans la boue de Notre-Dame-des-Landes. Et donc, naît un peu l'idée de « Vas-y, on achète du matériel en commun et on a une mutuelle de matos intercantine donc, qui servait au cartel des cantines à l'époque. » Et du coup, c'est comme ça que s'est créée la chouette cantine, dans le cadre d'une lutte, et après qu'elle a continué du coup, à exister à Rennes, qui servait pour tous les événements militants, les luttes, pour des collectifs, des assos derrière. Et du coup, ça devait être, je pense, 2013, enfin 2012, et du coup, 3 ans plus tard, on a la création de la mutuelle de matos, un peu sur le même modèle, et les autres collectifs qui apparaissent. Et du coup, il y a quand même, peut-être tu me compléteras là-dessus, mais moi j'ai l'impression qu'à Rennes, il y a un peu... un truc assez acquis de la mutualisation, ça profite à tout le monde. Et je ne sais pas, c'est un peu reconnu et établi comme façon de fonctionner. Après, ce que ça crée de positif et comment ça change les relations entre militants et entre collectifs, ça demande un peu plus d'analyse.
Ouais, si et peut-être pour compléter. Donc bonjour. peut-être pour compléter. J'allais dire ça un peu que finalement la Mutmat ça s'inscrit dans une dynamique rennaise qui fait que ça fait un peu effet boule de neige et que du coup ça fédère beaucoup de gens auprès de ces collectifs que Carda a cité de réseaux un peu mutualistes mais en fait qui a un cercle plus étendu avec des collectifs antiracistes, féministes etc. où finalement on se connaît assez bien tous et on s'organise ensemble. Et après, on a aussi réussi, dans une moindre mesure, mais quand même, à toucher des groupes qui sont finalement plus durs, entre guillemets, à atteindre parce qu'on n'est pas tout à fait aux mêmes endroits de lutte ou aux mêmes endroits d'organisation et de vie, qui sont notamment certains syndicats, qui sont des organisations de quartier, autant pour des manifs de quartier que pour des fêtes de quartier. Et du coup, je trouve que c'est aussi un bon signe qu'on a un peu réussi à rester ouvert. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'en plus, quand il y a une asso ou une autre qui entend parler de nous et à qui on prête, ça fait un effet bouche à oreille. Et du coup, ça ouvre encore plus pour d'autres gens. Voilà.
Trop bien, merci. Est-ce que côté Matmoud, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose un peu semblable qui s'est créé sur le territoire via la mutuelle ou... Peut-être que ce n'était pas exactement la même chose, comme il y avait quand même un lien fort avec la lutte de Bure, je suppose.
Bah, en tout cas, ça a permis de faire des événements de notre côté plus facilement. C'est-à-dire de dire à des groupes, vous pouvez venir sur le terrain de la gare, faire votre petit événement où vous fournira du matos. Enfin, ça, en fait, ça permet Ça permet de diversifier les équipes de gens qui peuvent faire ça en fluidifiant le processus finalement. Et on s'en est aussi servi. Alors nous, on a quand même moins de, c'est quand même un coin moins dense en termes de lutte et de collectif que l'agglomération de Rennes. Mais ça a permis un petit peu de mettre un pied dans des événements plus, dirais plus artistes, alternaux, enfin des gens qui font des trucs sympas à la campagne et qui sont aussi une forme de résistance à la fascisation des campagnes. Enfin, y a, voilà, du coup, de tisser des liens qui sont pas forcément indéfectibles, mais avec des collectifs, du coup, c'est plutôt sympa. Et ça fait aussi l'occasion d'échanger avec les orgas qui ont besoin de nous et de puisqu'on leur amène du matos, de mettre un petit pied dedans, de pouvoir parler des choses qui nous intéressent aussi à d'autres endroits sur notre territoire ou ailleurs, c'est-à-dire en général on vient avec un petit peu de propagande de chez nous et de crêpes et de tout ce qu'on veut. Du coup, ça facilite ça et effectivement, on n'a pas trop vraiment eu de conflit autour du prêt de ce matériel. Enfin, tout est. Il y a des gens on n'irait pas forcément l'idée d'aller à leur événement. On trouve que c'est un peu bizarre leurs histoires de banquets gaulois, des choses comme ça. On a fait des prêts un peu étonnants des fois, mais en fait, ça se fait assez bien. Voilà, ça permet d'avoir des rapports positifs avec les gens. Puis après, les gens, ils nous aiment bien. Voilà, on prête la maison d'assistance maternelle à Barnum. Voilà, ça fait toujours l'occasion de dédiaboliser un peu les méchants anarchistes de Bure. Enfin, voilà, ça a plusieurs vertus comme ça, effectivement, assez intéressantes.
Ok. Et ouais, sur cette histoire d'événements, je me disais, du coup, côté soulèvement, il n'y a pas vraiment forcément d'ancrage territorial. Mais c'est peut-être quelque chose aussi que vous vivez plutôt sur les événements. Du coup, c'est du matériel qui se déplace plutôt. Et je ne sais pas si, Gwen, tu es en capacité de nous raconter un peu ce qui se fait à ce niveau-là maintenant.
Est-ce que tu m'entends bien ?
Oui !
Ah, ok, super, on va essayer comme ça. Écoute, oui, c'est sûr que moi, je parle depuis un point de vue un peu plus, un peu différent des autres mutuelles qui sont très ancrées. Localement, moi je fais partie du coup de la commission de logistique des soulèvements de la terre. Les soulèvements de la terre, c'est quoi? C'est 2021. Depuis 2021, on a commencé à organiser des mobilisations. Du coup, ça se passe un peu partout en France et un petit peu parfois un peu autour. Et donc le matériel dont je vous parle ici, c'est du matériel qui est surtout pour de la manifestation, de la mobilisation, c'est de l'équipement pour faire du son et communiquer dans les manifs, des party bags qui contiennent des enceintes et des mégaphones, c'est des talkies et parfois de la téléphonie, c'est aussi parfois du matériel spécifique comme des bouées gonflables, très spécifiques. Mais du coup, c'est sûr que c'est du matériel qui est mutualisé dans des situations à risque, à haut risque, quoi, c'est qui consiste à parfois perdre tout ou partie du matériel et à des endroits très différents comme là on l'évoque, c'est que ça peut être un peu partout en France. Du coup, on s'appuie quand même pas mal sur des comités locaux en essayant de leur mettre à disposition un ensemble de matériel dont ils auraient besoin dans le coin. Et ce matériel, il sert soit au mob des soulèvements, soit à d'autres mobs et plus petite ou plus grosse manif, hein, ça dépend des endroits et des moments. Et on essaye comme ça de rester en lien avec les personnes, parfois de faire des moments de visio pour réparer du matériel, d'envoyer des documents pour s'assurer qu'ils puissent le maintenir. Enfin, ça, c'est des choses qui sont parfois fonctionnelles, parfois pas fonctionnelles. Et donc, ça fait aussi qu'on a des retours des gens qui nous expliquent à quoi ça sert. Dans quelle situation ils arrivent à le faire vivre ce matériel, et on réfléchit ensemble aux besoins qui émergent pour telle ou telle mobilisation quand il s'agit de trouver des manières, d'autres manières créatives, plus ou moins créatives d'apparaître et de faire vivre des mobilisations impactantes, quoi. Voilà, je pourrais continuer du coup si on peut peut-être voir un peu les autres questions qui abordent cette partie-là.
Ouais, carrément. Bah, il y avait toute la notion d'événement. Et moi, je me posais la question. Enfin, il y a eu des événements comme le village de l'eau ou les résistantes auxquelles bah, quasiment tous les intervenants ici ont pu participer en termes de prêt de matos. Et ouais, enfin, je sais pas comment vous vivez du coup cette insertion-là. Est-ce que vous avez l'impression que, bah, évidemment, je suppose que ça apporte énormément d'aide aux luttes qui accueillent ces événements-là, et que ça reste hyper crucial. Mais je me demandais aussi, bah, ouais, qu'est-ce que ça apporte à la mutuelle, aux divers collectifs, ce moment un peu de rassemblement. Et je sais pas si tu veux continuer, Gwen, ou si côté Matmout ou Mutmat, vous les prendre pour raconter un peu peut-être ces expériences au sein des événements divers et variés. Et un peu comment ça se passe aussi. Ouais.
Bah, je vais continuer en disant peu de choses, du coup je pourrais assez rapidement passer la parole aux autres. Nous, c'est surtout des rencontres qui se passent à ces moments-là, des rencontres avec des personnes qui ont des luttes locales ou qui ont de bonnes idées, et du coup ça nous nourrit beaucoup ces moments-là, et aussi ça nous permet de capter si le matériel qu'on prête est pertinent dans ce genre de situation, genre village ou camp. Ça nous permet là, pour nous très concrètement par exemple, de mettre en réseau une série de party bags, si vous l'appelez party bags, ces équipements sonores là, mobiles, et qui permettent avec peu de moyens, ça coûte pas très cher comme truc, de sonoriser des endroits parfois très compliqués à sonoriser, quoi. Enfin, et là, dans ce cas-là, c'était assez intéressant de pouvoir le faire aux résistantes. Et voilà, quoi. J'ai l'impression que c'est surtout ça.
Et je sais pas si. Typiquement, vous vouliez parler aussi sur les événements de l'aspect magasin. Moi, j'ai l'impression que ça crée aussi une forme de dynamique à cet endroit-là. Et c'est quelque chose, en fait, enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression assez récent qu'on avait vu en premier au village de l'eau et ensuite aux résistantes, le fait d'avoir ce stock de matos sur place qui permet aussi, en tout cas, sur les camps de montage et tout, un dynamisme beaucoup plus grand, quoi. Je sais pas si côté Mutmat, ouais, vas-y, ouais. Là-dessus.
Bah, ouais, je peux prendre. Oui, et ben l'expérience du magasin, en effet, en fait, on n'avait jamais fait ça avant le village de l'eau l'été, il y a un an et demi, là, environ. Pour répondre un peu à la question de qu'est-ce que ça permet aussi d'être présent sur des événements comme ça, et en fait, nous, contrairement à la Matmout, on fait pas tant. On ne fait pas de tournée avec notre matériel, on n'a pas de véhicule, et plutôt ce n'est pas une pratique, en tout cas à laquelle on est habitué de venir nous-mêmes sur place avec le matos, sauf pour prêter nos chapiteaux, où là en effet on vient avec au moins une ou deux personnes du collectif qui sait les monter, mais on reste pas forcément à l'événement. Et le reste du matériel en général, c'est en autonomie. Et donc là, le village de l'eau, c'est un peu une première expérience où on vient, on apporte le matos, on monte. Le chapiteau, et finalement, en fait, finalement, c'était prévu, mais on reste sur place pour gérer un peu toute la gestion du matériel, et qui est notamment le nôtre, mais aussi celui de plein, plein, plein d'autres collectifs. En termes d'expérience, moi, j'ai l'impression que ça, c'est chouette parce que ça nous fait comment dire, j'ai l'impression que ça nous donne un peu une activité aussi pendant l'événement. Et du coup pas juste sur un truc de montage et de démontage, qui peut être très chouette pour des gens, puis pour d'autres qui préfèrent juste monter ou démonter. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer du monde et du coup de rencontrer les autres mutuelles de matos. Enfin, nous, je sais qu'on s'est pas mal rencontrés avec la Matmout grâce à ça, mais aussi de rencontrer des gens que ça intéresse et avec qui on peut discuter directement. Et c'est sûr que moi, je pense que ça nous a vachement décloisonné. En tout cas, sur des rencontres avec des gens pour qui le projet les intéressait. Là, ça fait 2 ans qu'il y a plein de mutuelles, de projets de mutuelles ou de mutuelles qui naissent. Je pense que ça joue aussi là, de pouvoir être sur place sur un long temps et de se rencontrer entre collectifs et entre militants.
Mmh. Merci. Et oui, enfin, et par ailleurs, bravo et merci de ce boulot-là. On a pu le constater au Resistant 2, le magasin, c'est un sacré challenge aussi, quoi. Un chapiteau entier de divers matos. Ouais, enfin, c'est vraiment du taf et tout, mais c'était hyper. Enfin, en tout cas, c'est super précieux, quoi. Et moi, je me demandais aussi, là, pour la Matmout, tu parlais du fait d'avoir prêté un peu en dehors de vos cercles, et du coup, que ça contribuait au fait de ouais, dédiaboliser ou en tout cas rendre très concret et très humain des collectifs qui, peut-être, n'avaient pas fait de lien avec certains autres. Mais du coup, je ne sais pas si vous êtes posé des questions sur. Justement, jusqu'où vous prêtez, et est-ce que vous avez une sorte de charte ou des points d'appui sur cette question-là?
Alors, on s'est un petit peu posé la question, pas plus que ça, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment eu de cas où on s'est dit, là, on n'a pas envie de prêter. On s'est mis plutôt un ordre de priorité si jamais on a plusieurs dons en même temps, et du coup... on prête en priorité donc à les événements anti-nuc dans le coin, puis à les événements militants dans le coin, puis après à des événements militants ailleurs, ou aussi à des petits événements locaux, vers chez nous. Et après, en dernier, à des événements. Enfin, plus c'est loin et plus c'est éloigné de nucléaire, en gros. Moins on priorise, mais on a un espèce de grand principe de tout ce qui fait du bien aux gens autour de nous et qui sont pas des trucs craignos et qui sont pas pour faire du profit pour des entreprises ou je sais pas quoi, ça va. Enfin voilà, c'est quand même assez lâche comme définition, et pour l'instant on n'a pas eu de cas limite. Et pour rebondir un peu sur ce qui se disait, c'est vrai que les liens entre l'Est de la France et l'Ouest n'ont pas toujours été forcément maintenus ces dernières années. Et c'est vrai que le fait de se prêter du matos, clairement, ça a beaucoup contribué à ça. Voilà. C'est quand même une bonne porte d'entrée pour faire, sinon de la diplomatie, au moins de la camaraderie. Voilà, je dirais ça.
Ok. Et je me demandais si, du coup, dans l'Orne, c'était des questions que vous avez abordées là, en lançant la mutuelle, la question de à qui on prête, quel est le cercle au moment du lancement. Est-ce que c'est des questions que vous êtes posées, vous?
Oui, c'est une question qu'on s'est posée, et on a établi une espèce de charte et de principe pour savoir à qui on prêtait, savoir si c'était toujours des événements publics, par exemple, ou si on pouvait prêter aussi à des personnes privées, si on devait prêter à des événements qui étaient en accord avec notre ligne politique, ou si on pouvait étendre un petit peu au-delà des événements qui n'étaient pas forcément tout à fait raccord avec notre ligne politique. C'était les grands axes qu'on avait soulevés jusqu'à présent et sur lesquels on s'est arrêté. Et donc, on avait décidé qu'on prêtait à tout le monde. On a établi une priorité pour les événements, évidemment, politiques par rapport à des événements privés. Et là, je crois, par exemple, qu'on s'était mis d'accord sur le fait qu'on peut anticiper un prêt pour un privé, mais que si un événement politique ou un événement public se déroule à la même date, alors on se tenait un délai de 15 jours pour pouvoir donner la priorité à cet événement public. Et en deçà de 15 jours, je crois que le prêt initialement prévu était maintenu comme ça. Voilà, je crois que c'était un peu le principal. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? J'ai oublié quelque chose?
Non, bah, juste que nous, du coup, pour avoir cette discussion, on s'est beaucoup basé sur le zine de la Mutmat, qui s'appelle, je crois, Créer une mutuelle dans votre zone. Qu'on s'en est vraiment servi comme pièce à casser pour lancer notre mutuelle et un peu avoir toutes les questions à se poser autour de justement la création de ces processus, à qui on prête, comment. Ça a été super utile d'avoir ce petit document sur lequel partir pour pas
partir dans tous les sens et ouais.
Et tout réinventer, quoi. Précieux comme aide.
Je ne sais pas si on l'a en PDF, là, peut-être pour mettre dans le chat, ça serait trop chouette. Et je me disais, là, du coup, dans l'ordre, vous faites aussi le choix, du coup, de prêter à des personnes privées, potentiellement. Est-ce que c'est dans un but de faire plus de liens sur le territoire, de rassembler, ou c'est simplement dans l'idée d'être plus ouvert, quoi?
Oui, tout ouais. À fait, les deux, ouais. C'est aussi... pour l'instant, on n'a pas eu de prêt à des gens privés, mais voilà, c'est une option qu'on se réserve en se disant qu'il vaut mieux que le matos y serve et que ça nous serve à créer des liens plutôt qu'il soit stocké et qu'on le sorte rarement, quoi.
Bah, on va pas avoir des dizaines de mobilisations, enfin peut-être, hein, mais du coup, autant que ça sorte.
Okay. Je vois que Gavroche a levé la main peut-être pour une question. Est-ce que... Mais par ailleurs, en fait, tu es en écoute seulement pour la visio. Du coup, n'hésite pas à la mettre dans le chat pour qu'on y réponde. Et ou alors à recharger la page pour pouvoir avoir ton micro d'actif si ça galère. Ah, ok, c'est une erreur. Alors, d'accord. Et vous parliez là un peu tous et toutes du fait de faire du lien entre les différentes mutuelles et les différents territoires. Et il me semble que des mutuelles, il y en a de plus en plus. Elles se multiplient. On a commencé une carte un peu de toutes les mutuelles, les cantines et ce genre de réseau. Et on voit qu'il y en a quand même pas mal. Et il me semble qu'il y a une sorte de dynamique d'intermutuelle qui s'est lancée. Et peut-être vous voulez en dire deux mots, surtout si là, il y a des collectifs ou des personnes qui sont chauds et chauds de lancer leur mutuelle. Et ça peut être un support, je suppose. Je ne sais pas qui voudrait nous en dire deux mots.
Je ne sais pas, moi je peux me lancer. Hein. Et puis on se complète entre mutuelles. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que ça faisait longtemps que l'envie existait de se fédérer un peu, enfin que ce soit une fédération, mais de se mettre en réseau. Pendant longtemps, on était un peu solo, je crois, la Mutmat, en termes de mutuelle de matos pur jus. Et on a appris que la Matmout se crée. On avait déjà eu un peu des contacts, nous, assez indirects avec une mutuelle de matos en Ariège qui était préexistante. Il y a la Colle à Toulouse aussi qui existait un peu et tout. Et là, depuis 2 ans, un peu, il y a... l'envie qui s'est précisée au fur et à mesure de se mettre en réseau. Donc, ça a été des longs framadates et des mails un peu dans le vent et des coups de fil et un peu des contacts. Et ça a été bien de se rencontrer en vrai, justement, lors du village de l'eau. Là, j'imagine qu'au Résistante, ça a étoffé un peu aussi le réseau. C'est quand même vachement plus simple. Et donc, depuis l'année dernière, on a un réseau qui s'appelle Lama de Mut. Voilà, histoire de continuer dans la même vibe de jeu de mots, et où le logo sera un lama, a priori, et où l'objectif, c'est d'être en lien les uns avec les autres, de se faire un peu des rencontres annuelles pour faire de l'échange de pratiques, de réflexions et autres. La dernière fois, on s'était retrouvé à Bure, printemps dernier, là, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, il y a d'autres qui se préparent là pour le printemps prochain. Voilà, on n'était que 3 ou 4 mutuelles. On n'était que 3 mutuelles représentées, je pense, à ce moment-là, et plus 2 autres qui avaient fait manifester leur intéressement. Et du coup, on a continué à produire un peu des. Là, il y a une brochure qui est quasi finalisée, en tout cas. Quasi prête à la diffusion, mais qui était à la base une brochure de la Mutmat. On a produit une petite charte de qui peut se retrouver un peu dans cette mutuelle. J'ai cherché tout à l'heure, mais je ne l'ai pas retrouvé, qui reprenait un peu les principes de priorité aux luttes, de pratique du prix libre, de non-salariat et autres. Voilà, on pourrait retrouver un peu le truc. Et puis bah, l'objectif là, c'est que ça continue un peu de se développer. Et là, c'est quand même assez impressionnant comment ça s'est emballé en l'espace de 3 ans. Là, on est passé de 2-3 mutuelles référencées à plus d'une dizaine, avec plein d'autres gens qui ont le projet de se créer. Du coup, c'est pas forcément évident de lancer sa mutuelle. Donc, l'objectif de ce réseau, c'est un peu aussi de s'épauler d'une mutuelle à l'autre, entre mutuelles pour les lancer, quoi. Voilà.
Trop bien. Et du coup, si on voulait rejoindre l'intermutuelle, il suffit d'écrire à par exemple, une des mutuelles qui est là ou qui figure sur la carte. Et on serait rajouté à genre une liste mail, un truc comme ça.
Ouais, un peu, je crois. Hein. Je sais pas ce qu'on s'est dit comme protocole. Dans les autres qui étaient présents, on s'est dit quelque chose là-dessus.
Rien de très précis dans mon souvenir, mais en tout cas, ouais, on a une boucle signal. On s'envoie pas à 50 000 infos pour l'instant, mais je pense qu'on est, en tout cas, on est enthousiaste à l'idée d'avoir des gens qui nous contactent pour nous demander des trucs. Et si jamais les projets avancent et qu'on voit que ça se passe bien, on pourra réfléchir à se rajouter au prochain temps d'échange, où en fait ces temps d'échange, comme on l'a dit, c'est aussi les événements où on va amener des objets. Voilà.
Oh bien, merci. Et bah, du coup, peut-être plus pour rentrer sur justement bah, le lancement d'une mutuelle de matériel et peut-être les questions qu'il faut se poser et comment on démarre et peut-être vos expériences à vous qui peuvent aider là les personnes qui voudraient éventuellement démarrer une mutuelle. Et je ne sais pas si Lati, il me semble qu'il y avait l'animation d'un atelier un peu comme ça aux résistantes avec des questions à se poser notamment. Je ne sais pas si tu voulais nous en dire deux mots de ces questions-là. Et...
Oui. Oui, en fait, aux résistantes, on avait déjà un peu co-animé avec la Matmout des ateliers un peu pour présenter comment on fonctionnait et un peu rentrer un peu dans peut-être du un peu plus concret pour les participants sur comment monter une mutuelle de matos. Et un des petits ateliers qu'on avait proposé, c'est que les gens se mettaient en petits groupes et avaient une sorte de carte un peu jeu de rôle d'une mutuelle avec des spécificités. Par exemple, c'était une mutuelle de matériel événementiel en ville ou en milieu rural, ou une mutuelle de matos de cantine et de bricolage en campagne. Voilà. Donc, on avait proposé de faire ça. C'était cool parce que ça permettait aux gens d'être en petits groupes et de réfléchir un peu à rentrer dans à se projeter dans quelque chose de plus concret, en tout cas, de faire l'exercice de pensée OK, on est là, on est ensemble, on doit créer ça, quelles questions se posent. Et du coup, là, sous les yeux, j'ai la liste des questions qu'on les invitait à se poser. Alors forcément, il y en a d'autres qui arrivaient. Mais du coup, on avait un peu listé les questions qui nous semblaient assez intéressantes pour commencer et qui sont reprises dans la brochure au fil des petits chapitres. Mais en gros, il y avait une question qui était comment ça marche financièrement, c'est-à-dire à la fois d'où vient l'argent et est-ce que les prêts sont... Ouais, d'où vient l'argent? Est-ce que c'est que les prêts? Est-ce que c'est de la subvention? Est-ce que c'est du don? Etc. À qui on prête quand on monte une mutuelle? Là, en fait, rien qu'entre la Mutmat, la Matmout et la mutuelle de l'Orne, la Mutante, du coup, il y a un peu des petites différences. On est assez proches, mais en vrai, d'une mutuelle à l'autre, il peut quand même y avoir des choix un peu qui varient. Est-ce qu'on prête à des particuliers, notamment, par exemple? Comment on se procure le matériel? Est-ce qu'on fait de l'achat neuf, du don, enfin forcément au début il va y avoir des contraintes financières qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir acheter tout neuf, mais c'est intéressant de se poser la question de c'est quoi, par quel biais en fait on pourrait trouver du matos sans payer trop cher ou sans payer du tout. Comment on l'entretient, du coup l'organisation autour des chantiers d'entretien du matériel. Comment on organise les prêts. Ah, je vais un peu vite, hein. Si jamais il y a des besoins de détails, vous me dites dans le chat, je pourrais revenir sur des trucs. Comment on organise les prêts, c'est un peu est-ce que les gens ils sont en autonomie pour emprunter? Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de présent? Je sais que par exemple, entre la Mutmat et la Matmout, pour des raisons très liées à l'histoire de la mutuelle et au territoire et à l'organisation locale, ce n'est pas tout à fait la même façon de s'organiser pour les moments où on prête le matériel à d'autres collectifs. Il y a la question du lieu de stockage aussi, qui est en vrai une question qui est assez qui est un peu charnière, en tout cas, en fait, si on n'a pas de quoi stocker le matériel, ça peut être vite compliqué. Enfin, en tout cas, on se retrouve à refaire un peu ce truc de devoir aller à droite, à gauche, chercher chez les gens, peut-être, parce qu'on stocke un peu ici, un peu ailleurs. Du coup, ça, c'est un bon enjeu, et je pense que peut-être, vous, la mutante, vous pourrez nous en parler, vu que c'est tout récent pour vous. Il y avait la question de est-ce qu'il y a une forme juridique? Et si oui, laquelle? Est-ce que c'est un collectif? Est-ce que c'est constitué en asso? Ou autre auquel on n'aurait pas pensé encore? Et quel genre de matériel on a, en gros? Si on est plutôt basé sur de l'événementiel, à quoi ça ressemble notre matos? Si on part sur du bricolage, plutôt c'est quoi? Si on veut être un peu de tout, sur quoi on se concentre en priorité? Voilà, c'était ça notre petite liste de questions à se poser, à laquelle on pourra répondre dans les questions-réponses aussi. Enfin, en tout cas, répondre, je veux dire, donnez-nous nos expériences et nos façons de fonctionner respectives.
Ouais, bah, peut-être c'est hyper intéressant. Enfin, c'est peut-être un peu basique comme question, mais moi, je m'étais noté, par exemple, est-ce que vous avez l'impression, et j'imagine bien qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de règle universelle, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il faut être un nombre de personnes un peu noyau minimum pour commencer et pour pas non plus se noyer? Et je me demandais aussi s'il y avait un peu une panoplie de matos de base, même si je comprends bien qu'en fonction de ce qu'on veut faire, enfin typiquement, j'ai l'impression que là, côté soulèvement, ça va être très basé sur de l'action et du coup de la sonorisation, etc. Mais est-ce que si un collectif voulait se lancer quoi dans une mutuelle un peu, je sais pas si ça peut se dire, une mutuelle généraliste, mais est-ce qu'il y aurait une sorte de matos de départ quoi que vous conseilleriez éventuellement?
Bon, en tout cas, dans la brochure Mutmat, il y a une petite liste qui parle beaucoup d'équipements électriques, de rallonges, de multiprises, de micros, de mégaphones, et aussi des barnums et aussi des bancs d'étables. Voilà, c'est un peu ça les premières choses. Des groupes électrogènes. Enfin, après, c'est un peu qu'est-ce que c'est les premières choses que vous faites quand vous arrivez quelque part. Il faut être au sec pour pouvoir s'asseoir. Après, il faut faire à manger si vous avez une matos, du matos de cuisine, ce qui est autre chose. D'ailleurs, nous, on en gère un petit peu aussi. Voilà. Mais en tout cas, dans la brochure, quand elle sera finie, on pourra remettre ça un petit peu. Et effectivement, ça dépend de si vous habitez en ville ou de si vous habitez à la campagne. Ça fait quand même une petite différence, et en termes de place et en termes de besoins. Voilà. Mais choper des barnums, ça, de toute manière, c'est le nerf de la guerre.
Tu voulais ajouter un truc là-dessus? T'as ton micro ouvert, c'est pour ça que je demande.
Non, j'ai oublié d'éteindre mon micro, pardon.
T'inquiète. Et au niveau du coup du nombre de personnes ou de noyaux durs, enfin, vous avez peut-être déjà combien vous êtes, vous, dans vos différentes mutuelles ou commissions côté soulèvement? Et est-ce que vous avez l'impression que c'est gérable? Et je suppose que ça dépend de à quel point la mutuelle est connue aussi. Et je ne sais pas si dans l'Orne aussi, là, dans votre noyau dur... Vous avez l'impression d'être un nombre suffisant et combien c'est, et peut-être aider à se lancer aussi, de se donner un peu ces ordres de grandeur. Ouais, vas-y, Gwen, si tu veux me dire pour côté soulèvement.
Ok. On est un groupe un peu changeant en termes de taille, et ça se stabilise à des moments, et parfois ça se déstabilise. Mais on peut dire qu'on est sur une moyenne de 4 à 6 personnes en noyau dur, et qu'il y a un cercle, un deuxième cercle qui est de 15 à 25 personnes. Qui sont des espaces relais pour du matériel.
Et vous avez l'impression, vous, que c'est suffisant, quoi. Ça permet Ça permet de non. faire le job, quoi.
Non, on est vraiment plutôt on est vraiment toujours en train de tirer sur la corde, quoi. Mais il y a pas de moment où on est à l'aise, et c'est problématique parce que c'est des endroits de rush, vu qu'on est que sur des événements où il y a déjà beaucoup d'orgas qui est mobilisé, et du coup on se retrouve souvent à porter un peu à bout de bras des demandes de dernière minute, vu que les choix de matériel sont élaborés depuis des coordinations de manif, et qui souvent c'est à la dernière minute. C'est proche de la dernière minute qu'on a l'info de quel matériel est demandé, attendu. Donc souvent, ça tire sur la corde. Et comme on n'est pas un groupe local, mais c'est un réseau un peu large, ça fait qu'il faut réussir à ramener du matériel loin, souvent. Voilà. Du coup, on essaye d'affiner ça, mais c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Et on cherche des solutions. Peut-être que dans 2 ans, on fera un webinaire et je vous dirai qu'on a trouvé des bons truc, mais pour l'instant on est plutôt en train de faire on bouche les trous et on essaye de trouver des solutions sur le coup, quoi.
Vas-y Latif, si tu voulais dire pour la oui. MIPMAT.
Ouais, bah c'est pour compléter, puis parce que je pense que en effet, comme tu le dis Gwen, vous êtes un peu c'est encore un peu particulier, enfin c'est de la gestion de matos et c'est constitué un peu différemment qu'une mutuelle. Avec ce truc en plus de si j'ai bien compris, ça vous arrive presque de livrer des fois le matos avec des demandes de dernière minute. Nous, en tout cas à la MUTMAT, on est en ce moment une dizaine, et en vrai on est confort et on sait qu'on peut tourner à un peu moins que ça. On a fait 5 pendant longtemps, c'était un peu trop peu, mais il faut se dire que aussi on est une grosse mutuelle qui existe depuis longtemps, on a beaucoup de matos, ça veut dire beaucoup d'entretien, beaucoup de demandes parce qu'on est un peu connu. Et du coup, à 5, c'est tendu. Je pense que du coup, ça dépend aussi de est-ce que c'est une petite mutuelle qui commence, c'est quoi la taille du matériel, c'est quoi la sollicitation en termes de prêt. Voilà. Mais nous, en tout cas, on tourne à 10. Je pense que à 10, c'est confort. Enfin, je trouve peut-être Carda, si tu veux me compléter là-dessus. Et aussi, on défend un peu un truc qui est un peu lié à l'histoire de la MUTMAT et à des moments où certains membres se sont un peu épuisés, ont fait un peu du burn-out. Militants sous prétexte qu'il faudrait un peu se plier en 4 pour la lutte, et que nous on a plutôt un truc de en fait on va donner du temps et de l'énergie, c'est sûr, on va aussi se permettre de poser nos limites, et du coup que peut-être à des moments il y aura des demandes auxquelles on pourra pas répondre, et que c'est pas grave, enfin qu'en fait on fait ce qu'on peut, et c'est souvent ce qu'on explique aux gens quand ça nous arrive de temps en temps, de dire en fait là c'est pas possible. Et jusque-là, tout le monde est hyper compréhensif. Mais voilà, c'est aussi une habitude de dire, bah non, en fait, là, la demande, c'est trop dernière minute, personne n'est dispo, désolé, prochaine fois peut-être, quoi. Voilà.
Ok, merci. Et je me posais la question aussi, comme elle a été posée dans le chat, je vous la transfère, mais vous, du coup, dans vos différentes mutuelles, vous avez opté pour quel fonctionnement au niveau, notamment, des rentrées d'argent et aussi en termes de statut juridique ou de forme juridique, ou pas d'ailleurs.
Vas-y, je vais commencer. Alors nous, pour répondre un petit peu à la question d'avant aussi, tout le monde n'habite pas sur place, il y a beaucoup d'électrons libres, le matériel bouge pas, mais nous un peu plus, et du coup, en général, on est entre 3 et 6 actifs dans le groupe, selon les saisons aussi. Par contre, donc nous, on a un fonctionnement de collectif classique, auto-organisé, mais on a une association. Qui s'appelle la Matmout, où il y a les 4 coprésidentes, ce qui nous permet de plus facilement avoir des dons, assurer des véhicules ou des événements. Enfin, voilà, on utilise une association comme une boîte à outils, c'est-à-dire qu'on s'en sert quand on en a besoin. Voilà, on a aussi un compte en banque. Et au niveau des dons, on fonctionne à prix libre sur les événements qu'on fait, avec des fois, on essaye de donner des informations sur le coût du matériel un petit peu aux gens qui nous prêtent, qui nous empruntent et qui n'ont pas trop d'idées de, en fait, qu'est-ce que c'est un bon prix pour 10 Barnum, un groupe électrogène, machin, du matos de cantine. Et sinon, on a aussi, bah, du coup, des dons en nature quand il y a des événements et qu'on... Comme nous, c'était plutôt les résistantes 1, on avait fait ça, où on nous avait filé des trucs en partant, voilà, plus du prix libre. Et plutôt de notre expérience, c'est pas le groupe, c'est pas le groupe à Bure où on galère le plus à avoir de l'argent, parce qu'en fait c'est utile, parce qu'on a des dons, et aussi parce que bah quand même on fait beaucoup de on fait du travail bénévole qui normalement coûte de l'argent, et du coup ça, enfin voilà, c'est comme dans beaucoup de groupes, mais voilà, ça contribue au bon fonctionnement économique de ce groupe, voilà. Et dans les autres questions, bah ça c'est comme dans tous les collectifs, il faut réussir à dire non quand on n'a pas la dispo pour faire des choses. Des fois, on se dit, tiens, on pourrait gérer tel matos. En fait, on se dit non. En fait, on n'a pas de compétences pour, je sais pas, réparer tel truc ou faire des installations DJ parce qu'on n'a pas les gens dans l'équipe. Et bah, du coup, on se dit, voilà, on fait pas. Ce sera d'autres gens qui feront. Et il faut réussir à se mettre des stops entre nous. C'est un bon entraînement aussi pour nos vies personnelles. Mais voilà, on essaye de faire ça en tout cas.
Et je ne sais pas si côté Horn, vous avez pris votre décision là de forme juridique et de rentrer d'argent aussi. Et vous voulez peut-être nous raconter un peu comment ça s'est pris et sur quels critères vous avez pris votre décision.
Bah nous, on pompe sur les autres, on fait tout comme les autres. Donc du coup, pour l'instant, on est en collectif informel. On a commencé, là, on a rédigé les statuts, il faut qu'on en débatte la prochaine fois, histoire d'avoir un compte bancaire pour pouvoir recevoir des thunes, payer des trucs éventuellement. Et c'était quoi le reste de la question ? C'est bon ? C'est bon. Voilà.
Ok, merci. Et côté soulèvement, un peu différent, il me semble, du coup, c'est très lié au mouvement des soulèvements. Je ne sais pas si Gwen, tu veux nous raconter un peu ou...
Oui, je peux vous raconter que c'est un peu délicat. En réalité, pour la partie commission logistique, vous voyez, nous, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le matériel qu'on amène à la manifestation. On achète du matériel qui n'est clairement pas du matériel problématique, répréhensible, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ce matériel pendant la manifestation. Et parfois, c'est des manifs interdites. Donc, pour tout ce qui est achat de matériel, on essaye d'éviter de relier du matériel, même s'il est à des personnes morales ou physiques. Donc que ce soit des tokis, des party bags, des bouées ou une belinette, c'est des choses qu'on essaie de délier de personnes qui pourraient être judiciarisables. Même si, voilà, comme je le redis, c'est du matériel qui est inoffensif à la base, quoi. Donc plutôt pour la partie commission logistique, on essaye de se détacher de tout ça. Mais oui, effectivement, les soulèvements ont accès à plutôt des structures du type associative, pour pouvoir prendre en charge des équipements. Plutôt, c'est par le biais de dons qu'on obtient, qu'on a les moyens d'acheter du matériel. C'est aussi par le biais de récup où on arrive à faire de la bidouille, quoi. Mais c'est des récup qui sont des bons plans précieux. Du coup, on arrive à fabriquer des choses avec. Et pour vous dire là-dessus, ça permet beaucoup de choses d'avoir une structure en amont qui a des capacités de levée de fonds et qui trouve des moyens de soutenir financièrement de l'achat de matériel qui veut rester délié de personnes qui pourraient être inquiétés par la justice en cas d'usage particulier de ce matériel en manifestation. Donc ça, c'est pour la partie qu'on fait pour du matériel, le matériel qu'on mutualise. Et quoi d'autre sur la... je crois qu'il y avait d'autres questions que j'avais trouvées intéressantes que j'essaie de retrouver dans le chat. Le prêt aux particuliers, ouais, je vais revenir quand même sur ces éléments. Nous, on ne fait pas de prêt à des particuliers, c'est uniquement pour des événements politiques, principalement en campagne, mais parfois ça arrive qu'on soit dans certaines villes, mais c'est principalement en campagne. Pour l'entretien, on a beaucoup de pertes de matériel, du coup ça se règle un peu facilement, quand c'est perdu, il n'y a pas besoin d'entretenir. Et sinon, on essaie d'organiser des moments de réparation, rénovation du matériel ou renouvellement. L'organisation des prêts, c'est par le biais des coordinations. Du coup, là, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail. Nous, notre commission, elle a une force de proposition sur du matériel, parce qu'on n'est pas sur des casseroles, si, c'est un peu comme des casseroles de Barnum. Il s'agit de deviner, d'avoir des intuitions sur les divers matériels qui pourraient servir, faire bascule, enfin vraiment servir un propos politique dans une manif à travers les gestes ou une mobilisation en particulier au niveau des ambiances ou de la communication dans la manif. Et du coup, on a en amont des moments de recherche comme ça où on essaie de définir qu'est-ce que ce serait ce truc-là qu'on voudrait apporter, quoi. Et c'est mis en lien avec les moments d'organisation des manifs, des mobilisations, qui sont voilà, un rassemblement de diverses organisations qui vont définir c'est quoi la mobilisation. Et du coup, c'est ces deux espaces-là qui viennent définir qu'est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on l'achète, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour le faire. Donc c'est réellement lié, il y a vraiment un lien très fort entre l'objet qui est mutualisé et l'organisation, enfin les intentions politiques qui sont mises dans telle ou telle mobilisation. Et je crois que c'est tout ce que je voulais apporter.
Mais c'est assez c'est hyper intéressant, moi, je trouve aussi, de se poser la question, du coup, de quand même, en tant que collectif qui démarre une mutuelle, de à quoi va servir le matériel et d'avoir une pensée aussi anti-REP sur ce qui va se passer, quoi. De se dire que, enfin, si on sait pertinemment que le matériel est au service d'un certain type de lutte, de certaines manifs, etc., avec la multiplication de l'association, de l'utilisation de l'association de malfaiteurs, je trouve que c'est quand même hyper intéressant de se dire, bon, bah, en fait, comment on arrive à délier ça aussi au maximum de personnes physiques, quoi. Et je sais pas, vous avez jamais été emmerdé, enfin, vos structures, du coup, qui ont un peu pignon sur rue, forcément, vu qu'elles sont déposés en préfecture, ont jamais été emmerdés côté Matmout ou Mutmat, du fait du coup de l'implication du matos dans des manifs ou des actions.
Chez nous, on n'a pas eu de problème. On a effectivement eu, moi j'y étais pas, mais la curiosité des flics quand on est allé dans l'Ouest pour des manifestations. Plutôt, nous, c'est vrai qu'on fait pas forcément. Enfin, on peut prêter à des événements où il y a des manifs à côté, mais c'est pas forcément le cœur du truc. C'est pas exactement le même métier, on pourrait dire. Non, nous, on n'a pas eu de soucis avec ça. Voilà. Peut-être qu'on en aura un jour, mais je pense qu'en termes de, en tant que structure nous-mêmes, on a jamais eu de pression, de demande de compte ou quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, on est bien.
Oh cool, bah c'est bon à savoir. Pareil de l'autre côté, Mutmat. Ouais, vas-y, Gwen.
Pardon, oui, je lis juste un exemple là qui n'est pas lié à nous, les personnes qui sont présentes ici, mais c'était, je crois que c'est une asso qui avait fourni les toilettes sèches pour un des événements interdits, il me semble, et qui s'était retrouvé avec une amende. Mais peut-être que toi, tu as des nouvelles, des infos là-dessus. Ça éclairerait juste sur un cas concret. De mise à disposition de matériel dans un cadre de manifestation interdite et où il y a quand même des petites précautions. Ça nous éclairerait sur le fait qu'il faut prendre des petites précautions dans ces moments-là.
Il me semble que c'était une histoire de subvention, où ça avait été mis en avance pour éviter de subventionner la structure, notamment parce qu'elle avait mis son matériel à dispo pour en effet une manif, enfin un rassemblement, il me semble, interdit. Mais ouais, ça, en effet, c'est un exemple où ça avait tapé. Mais après, il n'y avait pas eu de suite tribunal. Mais je me souviens que ça avait été utilisé, ouais, comme argument, justement, contre leur subvention. Et après, elle touchait des subventions publiques, quoi. Qui n'est pas le cas, là, il me semble, d'aucune des mutuelles. Mais ouais, ça peut arriver. Je me posais la question, là, côté Matmut et Mutmat, vous avez, du coup, les deux plus anciennes mutuelles, là, qu'on a sur ce moment. Vous avez toutes les deux parlé du risque de burn-out, enfin, ou en tout cas d'épuisement ou de sursollicitation dans la création d'une mutuelle. Et bah, déjà, je me demandais si vous voulez nous en dire plus ou si vous avez à un moment eu un point de prise de conscience ou de mise en place de dispositifs particuliers qui faisaient que ça évitait ça, quoi. Enfin, j'ai bien entendu le fait de aussi savoir dire non, ça on fait pas, ou bah là c'est trop juste. Et du coup, ça me semble hyper intéressant. Et je me posais aussi la question de s'il y avait là d'autres erreurs ou d'autres écueils que vous voudriez partager avec les personnes qui sont là, dont vous vous souvenez, quoi, de trucs à potentiellement éviter ou que vous auriez aimé genre réaliser plus tôt ou savoir plus tôt. Au moment où vous avez monté votre structure pour bah, voilà, potentiellement éviter la répétition.
Chez nous, on n'a pas de. Ouais, je commence, ouais. On n'a pas de grand plan de ce côté-là. Je pense que c'est plus individuellement que des gens de collectif ont pris des pauses de ce collectif. Soit parce qu'ils étaient en burn-out sur d'autres trucs, ou soit parce que ils avaient d'autres priorités à ce moment-là. Enfin, en tout cas, ça s'est plutôt fait à des niveaux individuels. Il y a eu, en tout cas, on n'a jamais eu de problème pour avoir du suivi. Je dirais que ce qui nous cause régulièrement le plus de stress ou en tout cas de limites sur ce qu'on est capable de gérer, c'est la gestion de notre camion. Voilà, ça prend beaucoup d'espace mental. C'est très pratique, on peut faire des tournées avec, mais on n'arrête pas de. On n'arrête pas. On a toujours des choses à gérer. On sait faire un peu de méca, mais du coup, il faut qu'on s'arrange, il faut qu'on soit plusieurs, et puis on n'a plus l'énergie, plus la personne n'est plus là. Donc voilà, c'est plutôt ça que j'aurais vu. Voilà, ce qui n'est pas dit qu'il ne faut pas faire ça, mais c'est un sujet intéressant. Je ne sais pas si des gens s'imaginent que c'est pas compliqué de gérer un camion collectif, mais ça l'est. Voilà. Et sinon, je sais plus ce que c'était la fin de la question, mais voilà, en gros, c'est. En gros, c'est ça.
Ouais. Peut-être nous, on peut prendre la suite là, côté Mutmat. Nous, en 10 ans, on a eu plein de sujets relous en vrai. Il y a des sujets qui reviennent de manière un peu cyclique, quoi. Si on parle un peu des petits trucs prises de tête, de savoir. Il y a notamment la question de la pratique du prix libre. Où en fait, vu que nous on s'est mis comme règle de prêter exclusivement à des événements qui sont prix libre, bah, des fois en fait il y a des exceptions et du coup le débat revient sur la table et tout ça, et en même temps c'est un peu normal. Quand c'est des repas de soutien à prix fixe, bah, du coup des fois on prête. Quand il y a des trucs de soutien, des fois souvent on peut faire des petites entorses, et par le passé ça a été des petits sujets. Et après, pour revenir sur la question un peu d'origine, qui est, fait, c'est délicat quand on est dépositaire de matériel mutualisé par des collectifs, des organisations. On a un peu une sorte de bien commun. Enfin, nous, en tout cas, on s'est beaucoup vécu comme ça, les gens donnent de la thune et cotisent un peu à prix libre quand ils prêtent à des événements pour le matériel, donnent du matériel à la Mutmat déléguer la gestion et tout ça. Donc déjà, on a évacué le principal problème qui est la question de la propriété, où nous, on n'accepte pas de gérer du matériel mutualisé. On est forcément propriétaire du matériel qu'on gère. On ne sous-traite pas la gestion du matos pour d'autres collectifs. Parce que ça, on avait un peu identifié que c'était quand même bien merdique dans la durée. Du coup, ça, plutôt, c'est un conseil qu'on continue de dispenser, de gérer que le matos dont vous êtes pleinement responsable, parce que sinon, c'est chiant, ou alors, par exemple, c'est très clair. Voilà. Mais quand même, il y a quand même ce sentiment de « Ah, en fait, ce qu'on fait, c'est très utile. » Et ce que vous avez là tout à l'heure, un peu un sentiment de… Des fois, une petite mission de service public pour les luttes et le milieu militant, on s'était un peu construit ça et on s'était un peu mis en difficulté. Et ça a été surtout dur à une époque où on a connu des difficultés en interne, nous. Ça a été un événement assez marquant de la MUTMAT où, en gros, c'était à… Dans tout ce qui a suivi post 2018, on va dire que un peu dans la génération qui avait lancé la MUTMAT, il y a eu des embrouilles interpersonnelles et politiques, sans forcément détailler, mais des rapports de pression croisés, des analyses divergentes sur est-ce que l'abandon du projet d'aéroport à la ZAD c'est une victoire ou pas, donc les crises en gros qui traversaient. À Notre-Dame-des-Landes, elles ont aussi un peu pas mal percuté les gens à Rennes, et du coup, ça a aussi divisé les collectifs et tout ça. Et on a été un peu dans la galère pendant 3 ans avec des tensions en interne du collectif, et du coup, les petits jeunes qu'on était, enfin, les derniers arrivés dans le collectif, on s'est retrouvé à poser un peu des décisions du style. C'est pas là que ça va se régler, et du coup on demande à tous les anciens et anciennes de quitter la MUTMAT pour préserver l'outil. On dit pas que c'était forcément le truc le plus juste politiquement, mais en tout cas c'est, je pense, qui a permis de sauvegarder un peu la mutuelle de matos en tant que telle, parce que sinon ça allait être, enfin, c'était très tendu. Et après là, c'est là où on s'est retrouvé que à 3. Et avec le sentiment un peu de devoir faire prêter à tout le monde. Et du coup, là, on s'est un peu mis en galère et on s'est retrouvé à 3 vraiment en burn-out complet. Et du coup, on a un peu pris une décision de dire là, on n'est plus cap, on vient de prendre une décision qui était lourde. Et du coup, on a suspendu l'activité de la MUTMAT pendant 6 mois pour réfléchir un peu et redigérer ce qui s'était passé dans les 2 dernières années. Et avant de rouvrir et de recruter de nouvelles personnes, quoi. Mais voilà, c'était un moment pas évident. Mais on s'est dit que c'était pour le mieux, pour prendre soin de notre santé mentale et un peu du truc. Enfin, voilà, c'est pour illustrer. Après, chaque collectif vit des trucs différents. Mais...
Carrément, voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a sur cette question-là. Mais sinon, moi, j'arrive... doucement mais sûrement au bout un peu de mes questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas leur micro, ou alors à demander la parole pour les poser, il n'y a pas de souci. Et peut-être du coup là, pour terminer, merci pour la brochure, Lati, mais je me demandais s'il y avait d'autres ressources que vous pouvez conseiller, ou des moyens, par exemple, d'avoir une sorte de formation, ou peut-être simplement un appel avec vous. Voilà, quoi. Quand on veut se lancer, où est-ce qu'on peut trouver des ressources et vers qui on peut se tourner éventuellement si on a des questions supplémentaires sur comment faire, où commencer, tout ça.
Ouais. Ben, je peux prendre des ressources, un peu genre d'autres brochures ou d'autres bouquins. Moi, je vois Rage de camp, peut-être, mais pour être honnête, je ne l'ai pas lu. Mais je pense que c'est peut-être plus complet sur comment on monte un camp. Et du coup, ça aborde aussi la question matérielle. Il y a la Matmout qui dit qu'ils ont des ressources sur leur site aussi. Et après, pour le coup de fil, nous, on est grave... priant de d'être soutien pour les mutuelles qui se lancent, ou même pour les gens qui sont en projet, qui ont des questions. On l'a fait plusieurs fois. On a eu, je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait eu Marseille au téléphone, qui nous ont un peu posé plein de questions sur notre fonctionnement, et depuis, il y a la Marsmut qui a l'air de faire sa vie à Marseille. Donc avec plaisir pour nous contacter. Et après, la Madmut, du coup, l'intermutuelle qui est en train de se monter. C'est un peu aussi ça l'objectif, c'est de créer un réseau qui fédère un peu les mutuelles pour se rencontrer, partager de l'entraide matérielle, humaine, etc. Mais aussi pour que un peu les projets, les nouveaux nouvelles qui ont envie de se lancer, ils aient un peu ce groupe vers qui se tourner. Voilà, pour avoir peut-être plus facilement un interlocuteur selon qui est dispo dans les différentes mutuelles qui en font partie. Et on réfléchit aussi, jusque-là, on l'a fait un peu de façon informelle à des moments, mais à du soutien, à des petits coups de boost un peu de début de lancement, avec peut-être filer un peu de thunes ou filer du matos. Voilà, on a aidé celle de Nantes, notamment comme ça, en leur offrant un barnum et un peu de sous. Voilà.
Vas-y, Gwen.
Oui, je me demandais si c'était dans la suite là qu'on allait évoquer un peu les points durs ou les erreurs qu'on avait pu traverser, ou est-ce que c'est maintenant que je peux les aborder?
Vas-y maintenant. C'était juste avant, c'est parfait.
Ok, super. Moi, je voulais juste mettre sur la table une réflexion qu'on a partagée largement depuis les soulèvements, enfin largement, qui est en naissance depuis les soulèvements et qu'on a constaté largement plutôt. C'est l'impact du matériel sur les choix des modalités d'organisation. En gros, que ce soit pour les camps ou que ce soit pour les formes d'intervention dans les manifs, le fait de proposer, d'avoir l'option, quoi, d'avoir la proposition d'avoir tel ou tel matériel, ça vient fortement influer sur les manières d'être en manif ou les manières ou les choix qu'on fait d'apparition de ces moments, quoi, que ce soit des camps ou des manifs. Et ça, c'est quelque chose qui nous questionne fortement. On a à plusieurs moments reçu la critique d'avoir un peu de ne pas avoir réussi à susciter la juste mesure de l'usage de ce matériel. Et où du coup, ça vient déstabiliser et ça vient décaler à des endroits qui n'étaient pas forcément désirés. Voilà, je sais pas si c'est un peu clair, mais j'ai l'impression que je vais pas forcément illustrer parce qu'il y a plein de situations différentes. Mais voilà, ça a été une, ça c'est un des éléments sur lesquels on réfléchit beaucoup. Comment la mise à disposition de matériel n'influence pas dans la mauvaise direction ce que les gens souhaitent réaliser, ce que on souhaite réaliser avec les gens et ce que les gens souhaitent réaliser avec nous. Et la deuxième chose, c'est de constamment, en fil rouge, faire attention à la spécialisation des tâches, où on se retrouve à d'un côté avoir des fournisseurs de services ou de matériel, et de l'autre côté, des gens qui pensent, réfléchissent à des formes d'apparition ou de pression politique. Et du coup, ça nous tient à cœur de trouver des manières de dire haut et fort qu'il faut que les deux soient liés. Et que les gens soient dans les deux espaces, celui de l'élaboration politique et celui de la réalisation matérielle des choses. Voilà, c'est des belles intentions, mais qui sont souvent difficiles à mettre à l'œuvre, et on va essayer de trouver des solutions dans les années à venir et continuer à porter ça. Voilà.
Vas-y, la team, merci. Du coup, tu voulais pas réintervenir?
Ah oui, si, je veux. Pardon.
Je pense.
J'ai coupé la parole à quelqu'un ou ça va?
Non, je crois que Gwen avait fini.
Eh ben non, mais je voulais réagir parce que je trouve ça intéressant. J'ai pas envie de lancer un grand débat politique là-dessus, mais moi je trouve que ça pose un peu la. Enfin, je vois un peu ce que tu veux dire. En fait, je trouve que ça pose une question qui est intéressante oui, en fait, de fait, le matériel qu'on a à disposition pour organiser nos événements, je pense qu'il influence nos événements. C'est un fait. C'est-à-dire que, typiquement, à Rennes, les événements ne s'organiseraient pas de la même manière s'il n'y avait pas, notamment, cette facilité pour accéder à des barnums, du son, etc. Et du coup, il y a. Peut-être des événements qui n'auraient pas lieu, peut-être des événements qui auraient lieu autrement, peut-être des événements qui deviendraient payants, etc., etc. Du coup, de fait, le matériel qui est dispo, quel qu'il soit, et quelle que soit la manière dont il est géré par des mutuelles ou pas, il vient influencer la façon dont un événement arrive. Et juste, c'est intéressant parce que moi, je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec ce constat de dire attention à la spécialisation, dans la mesure où je capte qu'il ne faut pas qu'on s'enferme un peu dans nos bulles et qu'il faut vraiment rester dans un truc de communication pour que ça fasse sens. Si on travaille ensemble entre des personnes qui vont peut-être plutôt gérer de l'orga d'action et des personnes qui vont plutôt être fléchées sur le matériel. Mais pour autant, moi, je sais que dans ma vie, je ne pourrais pas mettre la tête autant dans les deux. Et qu'à titre perso, je ne suis pas dans l'organisation d'événements militants. Et je trouve ça assez... ça se tient, justement, quand on parle de trucs d'épuisement militant et tout ça. Moi, je ne vois pas trop où est le problème de se dire, bah oui, il y en a qui vont plus faire de la bouffe, et d'autres qui vont plus faire du matos, et d'autres qui... Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à rester en... Il y a des enjeux il y a des enjeux de coordination et de communication entre, je ne sais pas, par exemple, la partie régie d'un événement, matos, montage de l'événement et tout ça, et une partie peut-être plutôt action militante, et puis une partie programmation artistique, et que là, moi, j'ai vu des bugs à cet endroit-là de communication. Mais pas tant des bugs de « il faudrait que tout le monde fasse un peu de tout ».
Bien. Moi, je me disais aussi qu'il y avait peut-être des endroits où des... Enfin, en tout cas, ce dont on avait pu constater, discuter aussi sur les cantines, et un des constats qui avait pu être fait aussi, c'est qu'il y a des personnes qui potentiellement ne s'engageraient pas dans la prépa d'action ou de groupe. Mais c'est aussi un endroit qui peut être chouette pour s'engager et du coup apporter une aide très concrète à des luttes. Les mutuelles de matériel, que ce soit les cantines, que en fait, ça, y a un endroit aussi qui est peut-être plus facile à intégrer et qui est peut-être plus accessible aussi à un public très large que potentiellement le cœur d'orga d'une mobilisation ou ce genre de choses, et que pour autant c'est très concret et sans ça, ça pourrait pas se faire. Là, c'était des choses qu'on a pu voir avec certains camarades des cantines ou des réseaux de ravitaillement, en tout cas aussi autour typiquement des greniers des soulèvements, j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de dynamique comme ça qui se crée. Je ne sais pas s'il y avait des questions supplémentaires ou, pardon, juste avant, on était sur aussi des ressources à partager ou des possibilités de formation. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres pistes là-dessus pour... des personnes qui voudraient se lancer. Et sinon, de toute façon, on approche doucement de 20h, mais si des personnes ici ont des dernières questions, n'hésitez surtout pas.
Juste pour ajouter, si jamais... vous avez envie qu'on se voit en vrai pour discuter de choses sur vos mutuelles, c'est pas forcément idiot de demander parce qu'en fait, on bouge. Et des fois, on aime bien avoir des prétextes quand on va dans des villes ou faire d'une pierre deux coups. Enfin, voilà. C'est une invitation. Plutôt, on aime bien parler de ce qu'on fait et rencontrer des gens en vrai. Et enfin, les webinaires, c'est très pratique. Mais il y a beaucoup de choses qui se font dans l'interperso. Voilà, n'hésitez pas si jamais, ça peut être intéressant.
Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire dans le chat, du coup je vais attendre que ça puisse arriver.
Ouais, peut-être aussi pour compléter là sur l'histoire des prochaines rencontres de l'AMADMUT. Du coup, je ne sais plus les dates, mais c'est fin mars. Et a priori, ça devrait quand même être plutôt dans le sud-est vers Grenoble. Ce n'est pas encore complètement validé, mais ça devrait être ça. Et plutôt, c'est ouvert aux collectifs déjà un peu constitués ou en train de se lancer, quoi. Donc ça, c'est un peu la deuxième étape. Première étape, comme disait le camarade de la Matmout, c'est pour se rencontrer s'il y a des gens qui veulent monter le truc et s'il y a des collectifs qui ont déjà un peu lancé le travail et qui veulent participer au réseau, c'est ouvert, c'est nous contacter aussi.
28 et 29 mars, pour la prochaine en tout cas. Et trop bien, bah, en tout cas, s'il n'y a pas plus de questions, merci beaucoup pour toutes ces infos et d'avoir pris le temps d'être là ce soir. Je pense que c'est hyper précieux et dans tous les cas, comme on a enregistré, ce sera retrouvable aussi sur le site. On mettra les ressources là, qui avaient été partagées aussi pour que ça soit utile aux différents collectifs. On pourra vous repartager tous ces liens-là. Et simplement, bah, peut-être pour vous dire que le 22 janvier à 18h30 aussi, on aura du coup un peu le même type de temps, mais cette fois sur les greniers, les réseaux de ravitaillement, que le dernier, on fait celui sur les réseaux de soins. Et quand on parle réseau de soins, on peut parler à la fois de bambinerie, de médic, de soutien psy. On en fera un aussi le 10 mars sur les assemblées populaires. Et en avril, sur les lieux de lutte, donc les lieux partagés qui peuvent animer et aussi être un soutien hyper précieux aux divers luttes. Et a priori, on s'était dit aussi qu'en mai, on en ferait un autour des réseaux d'anti-REP, donc anti-répression, Legal Team et Caisse de solidarité, par exemple. Voilà tout le monde, merci beaucoup. Et peut-être on se souhaite une bonne soirée, à moins qu'il y ait des derniers mots.
Non, bah merci pour l'animation aussi. Hein.